Voilà, nous ouvrons nos Bibles dans Colossiens ce matin, Colossiens au chapitre 3, et nous poursuivons donc notre série sur l'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour adorer Dieu? Qu'est-ce que lui demande? Et on va lire donc un passage dans Colossiens 3 dans quelques instants. Avant ça, je voulais juste introduire un peu notre réflexion ce matin avec cette pensée. Il est très rare de voir des personnes qui, après avoir examiné les faits historiques, les faits réels en ce qui concerne Jésus, donc ses paroles, ses actes, de voir de telles personnes repartir en haussant les épaules, en le rejetant comme une personne sans importance. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rare, je crois. Des gens mal informés ou non informés, qui n'ont peut-être jamais rien lu, pas même un seul chapitre d'un évangile, peuvent bien avoir cette attitude. Ça arrive très régulièrement, par contre. Mais ceux qui ont regardé à cela superficiellement peuvent hausser les épaules, passer leur chemin. Mais ceux et celles qui s'y sont suffisamment intéressés diront, je crois pour la très très grande majorité, que Jésus est une personne importante. Maintenant, il y a une différence entre reconnaître l'importance de Jésus et reconnaître qu'il n'y a rien ni personne de plus important que lui. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence entre reconnaître que Jésus est important et reconnaître que Jésus est le seul qui soit vraiment important. Et en fait, beaucoup de personnes vont associer, tout en reconnaissant l'importance de Jésus, vont associer d'autres choses ou d'autres personnes à Jésus. Historiquement, ça a été Bouddha ou Socrate ou Moïse ou Mohamed. Ajouter d'autres choses à Christ, c'était aussi le danger des Colossiens. Dans leur culte, dans leur adoration, dans leur rassemblement en tant qu'église, ils s'étaient laissés gagner par des enseignements qui recommandaient Jésus plus. Donc c'était Jésus plus quelque chose, Jésus plus des pratiques ascétiques. Donc il fallait jeûner, il fallait pratiquer toutes sortes de rituels. Jésus plus les anges. Vous pourrez lire ça si vous relisez l'Épître aux Colossiens par exemple. Pour nous ce matin, alors qu'on va regarder justement dans l'Épître aux Colossiens, c'est un rappel que l'adoration chrétienne est centrée sur Christ et exclusivement sur Christ, sur Dieu. Comme d'ailleurs tout le reste de notre vie, et que l'adoration biblique est indissociable de l'édification, de la construction de la foi chez l'autre et chez moi. Donc adoration et édification sont comme les deux faces d'une même pièce. Donc notre adoration est alors corporative, elle est collective, et elle doit être nourrie par la parole du Christ. Je vous invite à lire ça avec moi dans Colossiens, donc au chapitre 3. On va lire les versets 1 à 17 pour avoir un peu de contexte, mais bien sûr on va s'intéresser un peu plus particulièrement aux versets 15 à 17. Alors je lis Colossiens, chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa sagesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous trouvez, je pense, dans cette lecture déjà quelques thèmes et idées qu'on a creusées dans nos prédications précédemment à propos de l'adoration. Et ce que je voudrais vous montrer dans une première partie, c'est qu'il y a la dimension horizontale de l'adoration. Jusqu'à présent, on était peut-être un peu tourné dans la dimension verticale. On a été la semaine dernière conduit par Paul à regarder dans Apocalypse et réaliser la gloire incroyable du Dieu qui est en train de siéger, qui est en train de régner sur le monde, qui est en train de rassembler un peuple et au final qui va le faire et qui va juger tous ceux qui seront rebelles. Et on avait vu qu'il y avait des choses qui nous dépassent dans cette gloire, des êtres vivants, on ne sait pas trop comment les décrire. Il y avait des myriades et des myriades d'anges qui, en ce moment même, alors que nous, on est ici à Cavaillon, et en fait, on est joints à eux, spirituellement, donc on est en train d'adorer Dieu dans toute cette dimension verticale qui nous donne le tournis. Et puis, la semaine avant, on avait vu toute la profondeur et donc toute la hauteur aussi de cette adoration qui monte vers Dieu. Mais bizarrement, ou en tout cas de manière équilibrée, la Bible elle nous parle aussi d'une dimension horizontale de l'adoration. C'est ça qu'on va un peu explorer, c'est en fait l'édification. La dimension horizontale de l'adoration, c'est l'édification. Et la dimension verticale de l'édification, c'est l'adoration. Et je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais des fois on a tendance à cloisonner un peu les deux et à séparer les deux choses. Bon ben là, quand on est ensemble, on va se parler les uns aux autres, on va s'encourager les uns aux autres. Ou là, c'est la prédication, donc c'est très horizontal. En fait, là, il faut qu'on fasse juste marcher notre ciboulot, notre cerveau, qu'on apprenne des choses. Et après, dans le reste de la semaine, alors on va partir et puis on va essayer de mettre ça en pratique pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour qu'il soit honoré dans notre vie. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de séparation. L'un va avec l'autre. Et si vous regardez dans le passage et dans le contexte dans lequel on est, c'est la même chose. Paul encourage les Colossiens à chercher les choses d'en haut, mais c'est un pluriel. Si vous, ensemble, vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez tous ensemble les choses d'en haut. Vous voyez, il y a cette dimension collective, horizontale si on peut dire, et en même temps verticale. Il faut ensemble chercher les choses d'en haut et le faire en accord avec notre nouvelle nature. Vous voyez, c'est un passage, c'est un principe bien connu dans l'Écriture qu'on a déjà vu dans Éphésiens. Il faut rejeter l'ancienne nature et revêtir la nouvelle en gardant les yeux fixés justement sur Christ et les choses d'en haut. Parce qu'en réalité, c'est là que se trouve notre vie, c'est là qu'est notre avenir, notre présent. Et c'est là que notre passé corrompu, pécheur, a été englouti, englobé. Dans la victoire de Christ, dans le fait d'avoir été lavé de toutes nos fautes à la croix. Alors si on doit se détourner de notre ancienne nature, revêtir la nouvelle, il faut détourner nos regards alors de ce qui est terrestre, de ce qui va disparaître. Parce que ça, c'est corrompu. C'est profané par le péché, si vous voulez. Ce n'est plus saint et a plus de valeur. C'est amené à être détruit, à disparaître. Et au contraire, de remplacer dans nos pensées les choses importantes, les choses qui ont de la valeur, les choses qui sont éternelles. C'est un acte conscient, c'est une lutte, il faut bien le dire, et on voit qu'il y a une sorte de progression. Et en même temps, bizarrement, c'est un état de fait. L'issue est déjà assurée. Regardez avec moi, verset 3 et verset 1 par exemple. Nous sommes morts avec Christ, et ressuscite avec lui. Paul, il dit pas c'est quelque chose qui va arriver ou c'est quelque chose qui est en cours de se passer. C'est fait. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, comment est-ce qu'on est mort avec Christ et ressuscité avec Christ? C'est la foi. C'est la grâce de Dieu qui touche notre cœur, qui nous pousse par la foi à mettre toute notre confiance dans le sacrifice expiatoire de Christ à la croix pour nous, et donc qui nous associe à ce que Christ a fait pour nous. Christ a payé pour tous nos péchés, ben si c'est valable pour nous, alors nous sommes morts aussi avec Christ. Notre ancienne nature a été crucifiée au moment où Christ était lui-même crucifié. Et nous sommes ressuscités, spirituellement, mais véritablement, avec Christ. Nous avons reçu la nouvelle vie. C'est déjà en nous, n'est-ce pas? Plusieurs, nombreux ici, ils peuvent témoigner de ça. Et en même temps que c'est un état de fait, voyez verset 5, en même temps il y a une progression. Faites donc mourir. Alors Paul, qu'est-ce que tu racontes? On est déjà mort ou est-ce qu'il faut encore faire mourir des choses? Ben oui, vous connaissez aussi, si vous êtes chrétien, cette tension entre ce qui est déjà une réalité pour nous, la vie avec Christ, et notre manière de vivre encore dans ce monde présent, avec les luttes que ça comporte. Donc il faut encore consciemment faire mourir le péché, notre nature terrestre. Et dans ce sens-là, l'adoration est quelque chose d'utile et de bon pour nous. Parce que l'édification, comme je l'ai dit, et l'adoration sont les deux revers d'une même médaille. D'après la Bible, en tout cas notre texte ce matin, l'un n'arrive pas sans l'autre. L'une est renforcée par l'autre. L'édification est renforcée par l'adoration. L'adoration est renforcée par l'édification, parce qu'on sait pourquoi on adore Dieu, parce qu'on sait comment le faire. Et quand on adore Dieu et qu'on a donc cette révélation renouvelée, nos affections attirées par la gloire de Dieu, alors quand on va retomber face à une tentation, on est d'autant plus fort pour dire mais non, mais ça n'a pas de valeur. Comme on l'a chanté ce matin, ça ne m'attire plus, je ne veux plus ça. Je rejette ça, je veux chercher les choses qui sont en haut. Donc l'un, l'édification par exemple, a du sens avec l'autre, avec l'adoration. Et l'adoration a tout son sens quand on est édifié les uns les autres. En fait, je crois que c'est ça le sens du passage. La pointe du passage, c'est « Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement » au verset 16. Et voyez comme Paul, il lit ça avec le fait de chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Donc c'est bien une initiative de Dieu, c'est Dieu qui nous donne cette grâce-là, cette révélation-là. On chante, et en même temps qu'on chante, en même temps qu'on regarde à Dieu, en même temps, ça a un effet pour nous instruire, pour nous avertir les uns les autres. Est-ce que vous commencez à voir la dimension horizontale de l'adoration ? Qui a en fait un impact sur ceux qui sont autour de nous quand on adore Dieu? Est-ce que vous commencez à voir la dimension verticale de l'édification? Ou quand on édifie les autres, en fait, ça plaît à Dieu. Quand on cherche à construire la foi de l'autre, quand on cherche à mettre des bonnes pensées, on cherche à s'encourager les uns les autres dans les vérités éternelles de l'Évangile, ça plaît à Dieu et ça donne de la gloire à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes édifiés, construits pour former un temple qui accueille Dieu, qui accueille le Seigneur lui-même. Donc, bien sûr, on l'a déjà dit, je crois, maintes et maintes fois ici, c'est pas ces bâtiments de 118-122 de l'avenue Yvon d'Ariès qui comptent. C'est le rassemblement de chrétiens, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont mis leur foi en Christ qui compte. C'est quand tous ces gens-là, hommes, femmes, enfants sont rassemblés, que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu se réjouit. Et vous voyez que c'est Dieu qui a fait cela, c'est Dieu qui a changé notre vie, notre corps, pour qu'on puisse être un temple maintenant acceptable pour lui. Il a lavé, il a fait le ménage, il a enlevé le péché. Et en même temps, il est encore en train de construire ce temple. Il est encore en train de l'édifier, si vous voulez, de le bâtir. Donc il y a un lien direct entre l'adoration et édifier. Édifier, c'est bâtir, n'est-ce pas ? C'est construire. Et donc, c'est construire en mettant des pierres ensemble. On ne construit pas avec un seul matériau unique. Édifier, ça a forcément une dimension collective. Ça nous parle d'une famille, d'une communauté. C'est ça qui est en vue. Et si vous regardez, donc édifier, c'est donc une question de croissance, dans les deux sens, dans le sens de la maturité et dans le sens du nombre. Le but des commandements, le but de connaître la parole de Dieu, c'est pas juste d'avoir des gros cerveaux bien remplis, mais c'est l'amour de Dieu. D'accord ? La loi nous est donnée, ou les instructions de Dieu, elles nous sont données pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et pour aimer notre prochain. Donc l'édification, la maturité spirituelle, la connaissance, les liens plus forts entre les chrétiens, tout cela va normalement produire de l'amour pour Dieu et pour le prochain. C'est ce qu'on appelle la maturité chrétienne. Quand de plus en plus, on est dans cette dynamique-là. Mais je crois que c'est aussi la croissance numérique avec des conversions. Quand nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens 14 que quand des non-chrétiens viennent et ils voient comment les chrétiens adorent Dieu, comment ils prient, comment Dieu parle au milieu de l'assemblée, certains vont tomber à genoux en disant, en reconnaissant, mais Dieu est vraiment au milieu de vous. Dieu est vraiment là. Et donc des personnes vont être attirées, eux aussi, à mettre leur confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand on grandit en maturité? Qu'est-ce qui se passe quand l'Église grandit? C'est la joie, n'est-ce pas? Donc cette édification, cette construction de l'Église, elle résulte après en adoration. Elle résulte dans des chants qui montent vers le Seigneur avec d'autant plus de raisons de louer Dieu, de le remercier, d'être reconnaissant. Connaître pour connaître sans adorer, cela ne mène à rien. Ça mène quelque part, mais pas là où vous voulez aller. Ça mène à la sécheresse. Ça mène peut-être à des formes de légalisme ou de pharisianisme, si ça vous dit quelque chose, si vous regardez dans les évangiles. Mais regardez comme Paul, en fait, mélange l'adoration avec la connaissance, la réflexion intense, profonde, avec des chants. On l'avait vu, en fait, dans Romains 11, si vous vous rappelez. Il a passé 11 chapitres à parler en détail de l'évangile, de toutes les implications dans le plan cosmique, dans le plan personnel, de comment Christ est notre justice, comment l'amour de Dieu se manifeste, etc. Comment on est en paix, comment il n'y a plus de condamnation. Il parle de choses vraiment importantes. Et en même temps, ça rejaillit en chant de louange. Regardez dans Éphésiens encore, qu'on avait parcouru ensemble l'année dernière. Régulièrement dans Éphésiens, il y a ce chant, ces prières de l'apôtre Paul qui montent en plein milieu d'un développement intense de réflexion autour de ce que ça veut dire l'évangile. Donc connaître pour connaître sans adorer, ça mène à rien. Et adorer sans connaître, c'est pas mieux. Adorer sans connaître, ça fait des guilis dans le ventre, ça fait des petits frissons dans le dos. On peut vivre des choses extatiques, mais c'est pour le temps d'un moment et le jour d'après, c'est déjà fini. Adorer sans connaître n'est pas mieux. Adorer, chanter, servir sans savoir qui reçoit cette adoration, sans savoir pourquoi il est tellement digne, Dieu, de recevoir cette adoration, ça n'a pas de sens. Décider. Comment adorer Dieu sans tenir compte de ce que lui-même dit à propos de l'adoration qui lui convient? Ça serait stupide, n'est-ce pas? C'est comme si vous visez une cible là, alors que en réalité elle se trouve à l'exact opposé. Ça n'a pas de sens. Et donc, il est nécessaire, si nous voulons progresser encore dans l'adoration, de nous instruire et de nous avertir les uns les autres. Comment est-ce qu'on va faire cela? Je vous invite, c'est ma deuxième partie, à regarder les éléments qui vont favoriser tout cela. La première chose que je vois, c'est une culture de sainteté. On ne peut pas juste venir le dimanche matin et dire, ben voilà, là maintenant c'est le moment où vraiment je vais louer Dieu avec mes frères et mes sœurs. en mettant de côté la sainteté. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que j'imagine qu'on en a déjà bien parlé ici. Mais vous voyez combien les premiers versets de ce chapitre 3 nous parlent de rejeter notre ancienne nature, de rejeter l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, pardon, qui est une idolâtrie. On ne peut pas venir le dimanche matin en étant cupide, donc avare, en cherchant à amasser des richesses terrestres, ou en essayant d'accaparer le maximum de biens autour de nous, ou le maximum d'affection pour nous. C'est une forme de cupidité aussi, n'est-ce pas? On veut tout pour nous. Ça, c'est une idolâtrie. On ne peut pas venir adorer le Dieu vivant et vrai, le seul qui est digne de toute notre adoration, et en même temps placer au milieu de notre rassemblement des idoles. N'est-ce pas? Ça serait stupide. Peut-être dans l'Ancien Testament, vu qu'il y avait tout un rituel et qu'il y avait des statues physiques, c'était assez évident de distinguer, tiens, ben, lui, il est un peu partagé, hein. En même temps, il va au temple et en même temps, il monte sur la colline là, pour se prosterner devant ce poteau culturel, etc. Il adore Dieu et les Astartés, ça va pas. Le grand danger pour nous, les modernes du 21e siècle, c'est que nos idoles, elles sont cachées au fond du cœur. Mais elles sont toujours là. Et Dieu ne tenait pas de rival. Il y a un seul Dieu. Le seul qui est digne de notre adoration. Alors, cette exhortation, avec le mot tout particulièrement d'idolâtrie ici dans le contexte, nous avertit. Attention, la sainteté devant Dieu, c'est important. Et la sainteté, c'est se séparer, n'est-ce pas? Dieu est saint parce qu'il est séparé de tout mal, il est bon, entièrement pur dans tout ce qu'il fait. Et nous sommes morts à notre vie d'idolâtrie pour vivre maintenant avec le Christ à la droite de Dieu, dans la présence de ce Dieu qui est saint, qui ne tolère pas le péché. C'est la sainteté, c'est aussi le fait que Dieu se suffit à lui-même. Dieu trouve son plaisir en lui-même. Les trois personnes de la Trinité sont satisfaites en elles-mêmes. Elles ont tout ce qu'elles ont besoin en elles-mêmes. Et donc l'invitation à la sainteté pour nous, c'est de faire la même chose, de trouver en Dieu tout ce qui nous comble, de voir tous nos désirs être assouvis, si vous voulez, de la bonne manière, par Dieu lui-même. Ça va nous éviter les mauvais désirs. Ça va nous éviter les passions mal dirigées. Donc la sainteté, une culture de sainteté, pas juste le dimanche matin, mais tout au long de la semaine, pas juste quand on est pour moi tout seul, mais en cherchant à le vivre ensemble, collectivement. Ça, c'est quelque chose qui va favoriser à la fois l'adoration et l'édification. Ainsi donc, verset 12, « Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et verset 15, « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Alors la deuxième chose, c'est une culture de paix. N'est-ce pas? On ne peut pas adorer Dieu si on est en guerre avec celui qui est juste à côté de nous, en train de chanter les mêmes paroles d'un chant. Si on est en guerre, ou s'il y a des choses qui ne sont pas nettes, pas claires, pas réglées, avec celui qui, à côté de nous, prie le même Dieu que nous. Ça n'a pas de sens. L'adoration, elle ne peut pas être juste moi je viens et c'est moi avec Dieu. L'adoration, en tout cas, chaque fois qu'on est rassemblés, elle doit prendre en compte cette dimension horizontale aussi, où on est tous ensemble. Et c'est pas une nouveauté non plus pour vous, ça va pas être facile. Ça va arriver qu'il y a des moments où on a des choses à se reprocher. Ça va arriver des moments où on a des choses à se plaindre. Alors voyez l'instruction ici de l'apôtre Paul, « Revêtez-vous d'ardente compassion, ardente ». De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et pourquoi on peut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que on a été touché par la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que Christ lui-même a fait ça pour nous. Parce que Christ lui-même s'est revêtu d'ardente compassion quand il avait en face de lui des gens qui étaient encore pécheurs. Quand il est venu pour les sauver. Parce qu'il s'est revêtu de bonté, d'humilité. Lui qui avait la gloire auprès de son Père a quitté cette gloire pour venir nous chercher au fond du gouffre, dans la boue du péché. Il était plein de douceur, plein de patience. C'est en regardant à Christ, quelque part, en ayant cette révélation de Christ, donc en adorant Christ, que nous allons avoir une culture de paix qui va s'installer dans l'Église. Donc l'Église va être édifiée. Voyez de nouveau comment les deux vont ensemble. L'adoration, la révélation renouvelée de ce que Christ a fait pour nous va avoir un impact envers les uns et les autres autour de nous dans l'Église. Donc nous cherchons une culture de sainteté, une culture de paix. Il y a des passages dans l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui dit ça, n'est-ce pas ? Si tu vas au temple pour présenter ton offrande et là tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, ça n'a pas de sens. D'abord, va te réconcilier avec lui. Si dans un autre passage, tu vois ton frère qui est en train de pécher, ne dis pas, tant pis pour lui, je m'en inquiète pas. Non, on va et on va essayer de ramener ce frère pour que tous ensemble, on soit en train d'adorer Dieu. Voyez, c'est ensemble que nous avons été choisis, appelés, pour former un seul corps. Alors, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Littéralement, le mot « règne » ici, c'est « arbitre ». Il faut que la paix arbitre dans nos cœurs. On cherche la paix. Une culture de sainteté, une culture de paix, une culture de reconnaissance. Alors, il y a des chants qui vont nous aider, parce que il y a des chants qui nous poussent à la reconnaissance. Mais en même temps, le fait de venir et de se rassembler ensemble, c'est quelque chose qu'on pratique déjà pendant la semaine, n'est-ce pas ? De chercher quelles sont les raisons pour lesquelles je peux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Soyez reconnaissant. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour trouver des bonnes raisons ? Et il y en a plein. Des bonnes raisons de reconnaître la grâce qui nous est faite jour après jour, dans plein de petits détails, comme dans les grandes choses de notre vie. Verset 15. On veut développer alors, pour une adoration plus belle devant Dieu, on veut développer une culture qui est centrée sur et qui est nourrie par l'Évangile. Vous voyez ça ? Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. C'est l'instruction de Paul. L'évangile ici, ou la parole du Christ plutôt, c'est quoi ? Ça peut être deux choses. Ça peut être soit la parole qui nous a été apportée par Christ, et c'est aussi la parole qui concerne Christ. C'est la parole de Christ, à propos de Christ. Et en fait, Christ est en même temps le porteur du message et l'objet du message. C'est lui le centre de tout le message. Donc ici, c'est plus que juste la Bible, qu'il faut que ça soit nourri par les Écritures, si vous voulez, par des versets, par des chapitres de la Bible, mais c'est aussi que ça soit centré sur Christ, qui est l'explication de toutes les Écritures, qui est le centre de toutes les Écritures, par la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui est le fil conducteur de toutes les Écritures. Que la parole de Dieu, de Christ, habite donc parmi vous. Que l'Évangile soit constamment rappelé entre nous. Il faudrait qu'on continue, qu'on progresse encore à développer dans l'Église, à Cavaillon, une culture centrée et nourrie par l'Évangile. Comment on va faire ça ? On va s'instruire. Une des bonnes choses avec les chants, c'est qu'on mémorise très facilement des paroles. Donc on va mémoriser en même temps qu'on chante ensemble beaucoup plus facilement des enseignements, des doctrines, des vérités fondamentales, les vérités de l'Évangile qui nous aident alors pour adorer Dieu. Du coup, le chant véhicule une doctrine. Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle est centrée justement sur l'Évangile ? Nous faisons le choix ici à l'EPEC d'être attentifs justement aux chants que nous chantons pour qu'ils soient une source de nourriture pour notre foi, pour notre connaissance, pour l'amour de Dieu. Et avertissez-vous. Oui, des fois, il y a des chants aussi qui nous aident à nous avertir, qui nous montrent la sagesse, qui nous poussent à la repentance. Et quand on est poussé à la repentance, pourquoi on doit se repentir si c'est pas grave ? Donc si on doit se repentir, c'est que il faut qu'on continue de réaliser que le péché reste quelque chose qui est grave. De même qu'on mémorise des versets bibliques, qu'on mémorise des chants, Dieu parfois nous met à cœur alors un verset ou un chant au moment où on est face à une tentation. Il n'y a rien de magique, c'est pas le chant en lui-même qui va jouer ici. Mais c'est le fait d'être ensemble, de nous encourager ensemble. Dans mon enfance, il y avait un chant qui s'appelle « Toujours content par la pluie ou par le beau temps ». Peut-être vous avez entendu déjà ce chant. Et parfois, mes parents nous chantaient ce chant-là. Donc il y avait une situation où ça commence à tourner un peu en cacahuète. Voilà, ça, il y avait des tensions qui commençaient à naître. On commençait à râler, on commençait à pas être trop content. C'était les vacances et puis ils nous proposaient d'aller au lac. Et nous, on se permettait encore de râler, par exemple. Et alors, tout doucement, on entendait cette mélodie qui arrivait, toujours content. Ah, c'était un petit signal. C'est une manière d'être averti par nos parents que est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces paroles-là, ces râleries. Donc, on est appelé à s'édifier, donc à s'instruire, à se conseiller, à s'avertir, à se reprendre les uns les autres. Et on le fait, bizarrement, d'après Paul ici, par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Nous qui avons peut-être tendance à mettre ces termes-là, donc des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, dans le sens très vertical, ça c'est moi pour Dieu. On oublie parfois, peut-être, en tout cas, ce matin, c'est un rappel qu'il y a aussi cette dimension horizontale. Il y a trois termes ici, des cantiques, des hymnes, des psaumes, des chants spirituels. Est-ce que Paul a en vue des catégories très spécifiques? Est-ce que c'est des styles différents de chants? Est-ce que c'est des chants avec des contenus différents? J'ai regardé un peu les mots en grec. Il me semble que c'est surtout que Paul est en train d'insister sur la diversité, sur la richesse, sur le fait de pratiquer ça régulièrement, souvent, ensemble. Est-ce qu'on devrait chanter uniquement les psaumes mis en musique? Apparemment, ici, le fait qu'il y a plusieurs termes, peut-être ça laisse la possibilité qu'il y ait des nouveaux chants qui soient créés, qui correspondent aux personnes du 21e siècle, à ce que nous, on est en train de vivre dans notre époque. Et comment les vérités de l'évangile éternel, intemporel, peuvent nous exhorter, nous encourager dans ce sens-là. Donc il me semble qu'on doit viser une diversité dans les styles et dans le contenu aussi. Vous savez que, si vous n'avez pas, en tout cas dans les groupes de partage, en ce moment on est en train de faire une série dans les psaumes. Et on voit toute la diversité qu'il y a dans les psaumes. Il y a des psaumes de sagesse qui repassent toute l'histoire d'Israël depuis Abraham ou depuis la sortie d'Égypte jusqu'à tel ou tel point dans l'histoire. Et c'est des psaumes qui amènent à la réflexion, à repasser un peu le fil conducteur de l'histoire selon Dieu. Il y a d'autres psaumes qui sont clairement de la louange, puis c'est les instruments, et puis on loue le Seigneur parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est grand, parce qu'il est digne. Il y a d'autres psaumes qui sont des psaumes de lamentation, où on dit au Seigneur toute la douleur, toute la souffrance qu'on a dans le temps qu'on est en train de vivre ici, en attendant d'être réunis avec lui. Et ça, je pense, ça plaît aussi à Dieu. Qu'on reconnaisse que c'est lui qui peut nous consoler, que c'est lui qui peut nous faire du bien dans notre tristesse, dans nos difficultés. Il y a des psaumes qui sont de l'intercession, où on demande à Dieu des choses. Vous voyez, dans les psaumes, il y a une grande diversité. Et ici, donc je pense que nous sommes appelés à la même chose. Nous le faisons dans la grâce, c'est sous l'inspiration de la grâce, c'est Dieu lui-même qui va inspirer tout ça, qui va être au départ de cela. Et nous voulons suivre avec lui, nous voulons nous réjouir dans cela. Donc chanter à Dieu de tout notre cœur en retour de cela. La conclusion, en fait, c'est le verset 17, n'est-ce pas ? Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, et moi j'aurais envie de dire spécialement quand on est rassemblé en tant qu'Église, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc on veut, si on veut améliorer, progresser dans l'adoration, on va se rendre compte, en fait, on va aussi progresser dans l'édification, on va s'encourager les uns les autres. Ça va passer par développer une culture de sainteté, une culture de paix, une culture de reconnaissance entre nous, une culture centrée sur et nourrie par l'Évangile. Alors, je voudrais conclure. D'abord, en ouvrant un petit peu le sujet, en disant, tiens, c'est bizarre. La suite de la pensée de l'apôtre Paul, c'est quoi ? Verset 18, c'est la famille. Donc il passe de l'adoration de ce qui se passe quand l'Église est rassemblée à la famille. Je pense que c'est un rappel que le lieu premier est privilégié pour vivre et apprendre ce que c'est l'adoration-édification, c'est la famille, de prier avant les repas. Comment est-ce qu'on va développer une culture de la reconnaissance ? Mais commençons déjà avec nos enfants, par exemple, simplement en priant avant les repas, en reconnaissant que tout ce que nous avons sur la table, ça nous vient de Dieu. Ou au restaurant, d'entreprise, avec les collègues aussi, par exemple. Pourquoi pas influencer notre société dans ce sens-là ? Peut-être en chantant sur la route des vacances, en voiture, ou sur la route de l'école. Ouais, c'est pas très agréable. Bien, on va chanter. On va s'encourager à être reconnaissant, parce qu'il y a des choses à faire pour le Seigneur, à l'école ou au travail. Comment est-ce qu'on va enseigner à nos enfants à faire des choix conformes à la parole de Dieu ? Et célébrer les réponses du Seigneur quand il y a des choix qui sont difficiles, qui sont risqués. Mais pour des applications plus particulières à notre assemblée, je pense qu'il est important donc on réalise toujours à nouveau que si la musique prend la place du médiateur avec Dieu plutôt que Christ lui-même, plutôt que les paroles qui nous portent à voir Christ et donc à adorer le Seigneur de tout notre cœur, là, il y a un petit problème. Donc la musique, elle nous aide à chanter ensemble, à prendre conscience que nous sommes ensemble, à ensemble nous encourager, nous exhorter les uns les autres. Pratiquement, il y a des questions, je pense qu'on n'est pas trop concernés pour le moment, mais ayons ça en tête pour l'avenir. C'est important qu'on puisse entendre alors la voix de son frère ou de sa sœur à côté. Et si on n'est pas écrasé par le volume de la musique, donc tout va bien. Mais ça pourrait être que si l'Église grandit, etc., on développe la sono, bah, on va veiller alors à ce qu'on puisse s'entendre les uns les autres chanter. Et tout particulièrement quand des fois c'est difficile pour moi de chanter. Ça m'encourage de savoir que moi j'ai du mal à mettre ma foi dans ces vérités là qu'on est en train de chanter. Mais Kevin ou Daniel à côté de moi, je les entends chanter de tout leur cœur. Oui, c'est vrai, je veux faire avec eux, je veux faire corps avec eux. Je veux être encouragé par leur manière de chanter. Si quelqu'un a du mal à chanter parce que les circonstances sont difficiles, il peut entendre alors les vérités qui sont rappelées à son cœur, à son âme, par les autres autour de lui. Et donc, en même temps qu'il y a une adoration qui monte des uns et des autres vers Dieu, en même temps, il y a cette dimension d'encouragement. Et la foi mise en œuvre donc par les uns et les autres dans leur manière de chanter peut encourager les uns et les autres. Alors, je vous invite à réfléchir, à chercher à vivre dans nos prochains rassemblements la dimension horizontale de l'adoration et la dimension verticale de l'édification. Que le Seigneur nous aide dans cela. Amen.